Trois mois après, à peine après le brevet de daguerre, eh bien, les premiers photographes partent au Proche-Orient munis de leur daguerréotype et vont photographier l'Orient. Et de manière tout à fait étonnante, si très rapidement la production photographique liée au Proche-Orient devient très intéressante, celle en Europe tâtonne beaucoup plus longtemps et s'avère nettement moins intéressante.
Pourquoi elle est plus intéressante au Proche-Orient ?
Elle est plus intéressante parce qu'elle trouve un vivier qui sied particulièrement bien à la photographie. La lumière, d'abord, une notion qui revient chez tous les photographes, dont a besoin par définition la photographie, parce qu'elle y trouve des sujets qui révèlent là aussi particulièrement la vocation même de la photographie. Ces sujets, ce sont évidemment les ruines antiques. Et ruines et photographie disent la même chose, extirpent de la matière, du sable, la mémoire, le passé. En Europe, longtemps, elle est cantonnée à des essais autour du portrait, autour de vagues paysages qui tâtonnent au niveau technique. Rapidement, certains techniciens deviennent d'excellents techniciens au Proche-Orient.
Et ces techniciens, on les connaît aujourd'hui, ce sont des noms qui sont restés dans le monde de la photographie.
Oui, aujourd'hui on les connaît bien, encore que certains n'ont été connus que très tardivement. Le premier à faire un véritable travail, lui, produit des daguerréotypes, c'est Géraud Pranget. Mais son œuvre n'ayant été connue que dans les années 20-30, ce n'est pas le premier qui a été connu. Le tour qui initie véritablement ce qu'on va bientôt appeler le grand tour des photographes, c'est le tour de Maxime Ducamp et Gustave Flaubert en 1849-1850.
Alors quand même, imaginez ces photos milieu du 19e siècle. Par exemple, sur votre affiche, il y a une photo avec une pyramide, avec le sphinx, une photo de Francis Bedford en 1862. On peut imaginer que c'est l'une des premières ou la première photo d'une pyramide en Égypte.
Oui, bien sûr. Le réflexe est de photographier les pyramides. On comprend bien pourquoi. Parce que l'Occident, jusque-là, n'a fait que fantasmer, que rêver l'Orient. On lui donne enfin l'occasion de le voir, peut-être pas de ses yeux, mais par les yeux des photographes. Et puis, il faut dire que les premiers photographes reçoivent des mandats, des missions archéologiques, des missions historiques, des missions scientifiques. Le but, et c'est la vocation première de la photographie, c'est au fond de constituer ce vaste répertoire dont ce très scientifique 19e siècle a besoin à cette époque.
La photo arrive à ce moment-là, mais il y a de grands peintres encore, on parle beaucoup de peinture. Est-ce qu'il y a un combat à ce moment-là entre les peintres et les photographes qui arrivent avec leurs grosses boîtes et avec leurs mécaniques?
Chaque fois qu'on touche à un pouvoir, il y a un combat. L'art, c'est un pouvoir extraordinaire. Celui qui le possède, celui qui possède la parole, la peinture. Bien sûr, immédiatement, les peintres sont plus que sceptiques. Ce rail d'un art considéré comme technologique, au fond, qui renvoie à la machine et non pas à la production véritablement artistique. On lui reproche, entre autres choses, son manque de couleur, sa sobriété excessive, de représenter une peinture qui n'est pas une peinture d'histoire au sens strict, avec ce que ça veut dire d'épopée, de grands combats, etc., dont étaient friands les premiers orientalistes. Mais de manière très paradoxale, l'orientalisme qui est, entre la fin du 18e et le début du 19e, fantasmatique, rêvé, c'est l'Orient de Delacroix, d'Ingres, de Chassériau, de ses peintres, de quelques écrivains comme Chateaubriand, Lamartine, eh bien, va rapidement trouver un sérieux concurrent. La photographie va imposer une toute nouvelle façon de percevoir le monde, l'Orient en l'occurrence, et va s'imposer très rapidement à la peinture qui s'adapte. Et dès les années 1860-1870, c'en est fini des scènes, des odalisques, des scènes de harem, de ces grandes compositions qui donnaient une image flamboyante et colorée de l'Orient. On entre cette fois dans un Orient autrement plus intimiste.
Pour faire un petit parallèle, c'était il y a environ 170-180 ans. Aujourd'hui, des photojournalistes ou des gars qui vont avec des petites caméras à travers le monde pour nous rapporter des images, ils y vont quasiment en short avec une petite caméra, un petit appareil. Il faut bien imaginer qu'en ce temps-là, c'était une expédition parce qu'un appareil de photo, c'était une boîte. Ils n'allaient pas en short, ils allaient en costard-cravate quasiment pour faire des photos.
Alors, c'est d'une difficulté extrême. Outre le fait qu'ils étaient mandatés et qu'on leur facilitait quelque peu la tâche, voyage. La photographie, c'est un plaisir, une passion de gens qui ont du loisir, de gens qui ont beaucoup de moyens et qui ont surtout des réseaux diplomatiques. Il faut savoir qu'on porte jusqu'à une tonne de matériel. On ne porte pas que son appareil photo, on porte ses révélateurs qui doivent... On doit préparer les plaques d'abord, les papiers ensuite, juste avant de prendre la photo. On doit les révéler tout de suite. C'est surtout des quantités d'eau qu'il faut et on se retrouve au milieu du désert avec près d'une tonne de matériel. À cela s'ajoute l'absence d'hôtel, l'absence de route carrossable, l'insécurité chronique des routes, des chemins au 19e siècle. C'est une vraie aventure. Et de manière très étonnante, au milieu du siècle, quand se développent les trains, les bateaux, l'hôtellerie, enfin les facilités, ce qu'on va appeler le tourisme, eh bien la première génération de voyageurs va se gausser des touristes. Et en fait, c'est dans ce creuset que se crée cette dichotomie entre le bon voyageur, le vrai voyageur, et puis le touriste, en l'occurrence le mauvais touriste.